Bonsoir, bienvenue. Ça fait plaisir de vous voir tous et toutes aujourd'hui. Bienvenue à ce rendez-vous pour l'Info Santé qui a été créé il y a déjà 24 ans. On se disait que ça faisait un petit peu de temps déjà que ça existait. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà venus depuis 24 ans à des pôles Info Santé? Vous, madame. Vous étiez à la première? C'est vrai?
La première était sur le dos.
Et plein d'autres. Il y a des nouveaux aussi? Bonjour les petits nouveaux, bienvenue. On est content d'avoir des nouveaux amis dans ce groupe. Alors Pôle Info Santé, c'est le fruit d'un partenariat entre le CHU, dont vous le savez, l'une des missions, c'est l'éducation à la santé, puis l'Espace Mendès France, qui est un centre de culture scientifique. Et l'objectif de ce rendez-vous, c'est de vous permettre, à vous, grand public, et à moi aussi, d'échanger, de voir, de rencontrer des professionnels de la santé, du milieu hospitalier et généraliste. Nos intervenants vont, dans un instant, vous proposer un diapo, ils vont vous expliquer tout cela, et puis vous pourrez leur poser des questions tout à l'heure, uniquement une fois qu'ils auront terminé, pour que ce soit beaucoup plus simple pour tout le monde. Aujourd'hui, on va donc parler, vous le savez, de la colonne vertébrale dans tous ses états, de la scoliose au mal de dos. Et je sais qu'on est un peu tous concernés, puisque c'est quand même le mal du siècle. Enfin, vous me confirmerez si c'est toujours le mal du siècle. Donc à la fin des exposés, vous pourrez poser vos questions. Deux options, deux possibilités, le micro que je vous passerai, je viendrai vous voir. On aura une hôtesse aussi qui viendra me donner un coup de main. Ça, c'est l'option 1. Et puis, si vous êtes timide et que vous n'avez vraiment pas envie de parler dans le micro, vous pouvez écrire la question. Vous avez dans les petits documents qui vous ont été remis un petit papier pour pouvoir écrire une question. Donc, vous l'écrivez. Surtout, écrivez le plus lisiblement possible pour moi et le plus gros éventuellement, parce que je vieillis moi aussi. Entre les mains, vous avez aussi un document avec tout un tas de petites choses, des infos que vous allez pouvoir avoir chez vous, bien sûr, et regarder plus en détail. Vous avez aussi une fiche d'évaluation. Alors, cette fiche, elle est très importante parce qu'elle nous permet à nous de modifier, de changer, de faire mieux pour ces pôles InfoSanté. Donc, n'hésitez pas à bien les remplir et nos hôtesses, tout à l'heure, en fin de conférence, les récupéreront. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Si d'éteindre votre portable, s'il vous plaît, ou de le mettre en vibreur. Ça, c'est pour pas qu'on soit embêté pendant la conférence. Alors, le micro, les histoires des micros, en fait, c'est pas pour qu'on fasse ce style comme si on était sur scène. C'est uniquement parce que tout ce qu'on va se dire ce soir est enregistré. Et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir réécouter tout ce qui va se dire grâce au micro, justement, grâce aux enregistrements, sur le site de l'Espace Mendès France et sur le site du CHU. Voilà. Comme ça, si vous avez loupé un petit truc, vous avez un petit somme, un petit moment d'égarement, ben vous pourrez réécouter tout cela tranquille chez vous. Bienvenue à cette 117e conférence Pôle Info Santé à l'Espace Mendès France avec le CHU de Poitiers. J'en perds mes fiches. Je vais vous présenter nos intervenants aujourd'hui. On va commencer avec le professeur Pierre Prisse. Bonsoir. Chirurgien orthopédique, chef de l'unité rachis, neurostimulation, handicap au CHU de Poitiers. Le docteur Anne Delobier. Bonsoir. Chef du service de médecine physique et réadaptation au CHU de Poitiers. Docteur Laurence Mille, bonsoir. Médecin du sport et médecin généraliste à Saint-Germain également. Vous intervenez au CHU, je crois aussi, c'est ça? Et puis Romain Carbone, bonsoir. Kinésithérapeute. Voilà, je vous laisse avec nos intervenants. Je vous souhaite une belle soirée. On se retrouve juste après avec vos questions.
Bien, bonsoir, je suis donc Pierre Prisse, chirurgien orthopédiste au CHU de Poitiers, comme cela vient de vous être dit. Alors tout de suite, j'attire votre attention sur la présence de ce squelette qui représente la colonne vertébrale, que vous pouvez venir à la fin de la présentation toucher, manipuler, et je pourrai vous expliquer, pour ceux qui ne la connaissent pas, je vois qu'il y a quelques étudiants en médecine, vous expliquer l'anatomie, j'espère qu'eux du moins la connaissent. Donc, nous allons commencer tout de suite par le PowerPoint. Alors, ne vous étonnez pas, nous allons intervenir successivement, mais à plusieurs reprises chacun. Alors, le plan, oui, merci. Le plan est simple. Dans un premier temps, nous allons vous présenter la colonne vertébrale, les différentes pathologies, sachant que, bien sûr, nous n'allons pas traiter toutes les pathologies de la colonne vertébrale, parce qu'il y en a beaucoup, mais les principales, celles qui touchent le jeune âge, la scoliose, et celles qui touchent le patient, on va dire, plus mûr, à savoir le mal de dos, qui peut avoir différentes origines. Alors, vous voyez ici sur cette première diapo que la colonne vertébrale est un ensemble qui va de la base de la tête jusqu'au bassin. Très important, parce que ça signifie qu'il y a toujours des interactions possibles entre ce qui touche la tête, ce qui touche la colonne et les membres inférieurs. Donc certaines pathologies de la colonne peuvent en fait provenir d'autres choses, des hanches ou d'autres pathologies. Ensuite, vous voyez ici une petite évolution entre l'homme de Néandertal et ce que nous sommes. Vous constaterez que celui-ci avait le dos tout droit, et c'est pourquoi nous n'aimons pas tant que ça le terme de colonne vertébrale, qui sous-entend quelque chose de bien droit qui va tenir un édifice, pour préférer celui de rachis, parce que la colonne a des courbures. Trois courbures, cervicales dans un sens, dorsales dans l'autre et lombaires dans le troisième. Et finalement, ce qui fait l'évolution entre le bébé qui, jusqu'à l'âge de la marche, marche à quatre pattes parce que sa colonne est droite, et vous et moi, il n'y a pas de bébé ici a priori, c'est l'apparition vers l'âge de un an et demi, des trois courbures qui lui permettent de tenir debout. Et malheureusement, ce qui fait le vieillissement de la colonne va conduire cette colonne qui était bien courbée harmonieusement à devenir arrondie, et il va devoir prendre à ce moment-là une canne pour se soutenir. Ça sera donc le troisième âge dans lequel on ne peut plus tenir debout parce que nos courbures se sont effacées. Et tous les traitements qu'on vous proposera tendront à retrouver cet équilibre physiologique, comme vous le voyez indiqué ici. Alors aujourd'hui, bien sûr, nous ne parlerons pas des fractures et des lésions traumatiques de la colonne, qui relèvent de l'urgence, ni des infections de la colonne. Les plus anciens ont peut-être appris ce qu'était le mal de Pott, la tuberculose vertébrale, donc nous ne parlerons pas de ça, et nous ne parlerons pas non plus des tumeurs de la colonne vertébrale. Nous allons donc commencer par les déformations et ensuite nous parlerons, comme je viens de le dire, du vieillissement du squelette et des affections qui y sont attachées. Alors la scoliose, contrairement à ce qu'on imagine, n'est pas due à une mauvaise statique ou au port du cartable. Non, c'est une véritable maladie qui commence pendant la période embryonnaire et qui se caractérise par un déplacement progressif, insidieux, des vertèbres dans les trois plans de l'espace. Et vous avez ici, à gauche, une image de scoliose chez une adolescente. Donc l'âge classique de révélation, c'est entre 10 et 15 ans. Et à droite, la traduction radiologique, où vous voyez bien que cette colonne n'est absolument pas droite comme elle devrait l'être. Donc c'est bien une maladie évolutive essentiellement pendant l'adolescence et l'âge adulte jeune, et qui est d'origine à la fois génétique, neurologique et hormonale. Il y en a des formes de gravité très variables, et ce qui caractérise la scoliose, c'est cette aggravation entre l'âge de 11 ans et l'âge de 15 ans, et on vous remontrera ce schéma parce qu'il est important pour le dépistage et la prise en charge. Alors qui est concerné? Eh bien 3 à 4% de la population générale. Mais attention, donc tout le monde sait que ça concerne plus la fille que le garçon, 8 pour 1. Et par contre, 10% des cas nécessiteront un corset. C'est peu, finalement, et encore beaucoup moins de ces cas nécessiteront un traitement chirurgical. Donc voilà qui est concerné. Ce qu'il faut savoir, c'est dépister. Et pour dépister, il n'y a pas besoin d'appareils sophistiqués, de technologie. C'est l'œil du médecin, de votre médecin généraliste, du médecin de rééducation, du kiné qui peut prendre en charge un adolescent pour un genou, pour autre chose, qui doit regarder son patient dans son ensemble. Et avec l'œil, il verra les signes que vous voyez ici, une épaule un peu plus basse, une déviation latérale. Et ensuite, il examinera le patient soigneusement pour mesurer, toujours avec un fil à plomb, le scoliologue a un fil à plomb, une équerre, un niveau à bulle pour mesurer le dénivelé de la colonne vertébrale. C'est ça le dépistage et l'examen clinique permet le suivi de la scoliose. Alors après, bien sûr, on a recours à l'imagerie et là, je pense qu'on peut remercier, nous, le CHU, de nous avoir mis à disposition un matériel d'exploration radiologique qui irradie 20 fois moins que les radios conventionnelles et qui, comme vous le constatez, à partir de ces clichés, permet de reconstituer la colonne, de mesurer différents paramètres de rotation, de déplacement latéral et même de reconstituer, voyez bien, cette déformation qui concerne les trois plans de l'espace et qui, encore une fois, n'a rien à voir avec une mauvaise attitude liée au port du cartable. Alors, nous parlerons dans un deuxième temps de deux autres pathologies, et je cite les noms parce que c'est dans le langage courant, le lumbago et la sciatique. Qu'est-ce que le lumbago ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle aussi le tour de rein. C'est une douleur aiguë de la région lombaire, mais qui ne dépasse pas le pli fessier, c'est-à-dire qu'elle ne va pas dans les jambes. Il apparaît en règle brutalement après un effort de déménagement ou je ne sais quoi, et il peut s'accompagner d'une sensation de ce qu'on appelle un blocage ou une contracture. Attention, on peut avoir un lumbago qui va rester un lumbago, mais malheureusement peut apparaître dans les jours ou les semaines qui suivent une sciatique, ce n'est pas obligatoire, ça arrive, qui elle, et j'insiste, la sciatique, c'est une douleur qui descend dans la jambe selon le trajet bien précis d'une racine nerveuse. Et vous verrez sur ce squelette les différentes racines. Vous pourrez ainsi comprendre comment la douleur descend jusqu'à la jambe, parce que la racine L5 descend jusqu'à la jambe. Et donc, vous voyez le trajet de la douleur exprimée par le patient. J'en ai terminé pour la scoliose et les autres pathologies aiguës, et je vais maintenant laisser la parole à Anne, qui va vous parler de la douleur chronique du dos, qu'on appelle la lombalgie chronique.
Donc, bonsoir à tous. Donc, moi, je suis médecin de rééducation. Si je parle à ce moment-là, c'est parce qu'on est tout à fait concerné hein, par ces lombalgies chroniques. Alors, c'est une lombalgie donc commune. Le professeur Price l'a déjà dit, lombalgie commune. Ça veut dire qu'on a éliminé auparavant tout ce qui pouvait être une tumeur bénigne, maligne. On peut éliminer toutes les pathologies inflammatoires, des pathologies infectieuses. Et quand on a éliminé tout ça, c'est ce qu'on appelle la lombalgie dite commune. Sans autre étiologie qu'un vieillissement la plupart du temps, puisqu'on sait que la colonne vertébrale vieillit assez vite hein, dans le vieillissement global de l'individu. Alors, vous avez sur le petit schéma de droite les différentes définitions. Donc, lombalgie aiguë ou lumbago, c'est une évolution classiquement qui se termine en 1 à 4 semaines environ. La lombalgie subaiguë, ça déborde 4-12 semaines. On est un peu entre les deux. Hein. Est-ce qu'on va malheureusement déboucher sur la lombalgie chronique ? On ne sait encore rien. Vous avez sur ce petit schéma, vous voyez des épisodes récidivants. Hein, ça, c'est tout aussi gênant, c'est-à-dire que les gens peut-être guérissent entre deux épisodes, sauf qu'ils font des épisodes 3 fois, 4 fois par an parfois, et c'est tout aussi invalidant finalement qu'une lombalgie chronique. La diapositive suivante. Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir pourquoi cette lombalgie aiguë, elle ne va pas guérir comme dans 70% des cas, et pourquoi il va y avoir un petit 10% des cas, des patients qui vont prolonger leur douleur bien au-delà des 3 mois. Alors, vous avez ici ce qu'on appelle le cercle vicieux de la lombalgie chronique. Au départ, on a la même lésion et la même douleur qu'un lumbago ou même lombosciatique. Et puis, il y a un certain nombre de facteurs qui font que ça ne va pas guérir. Alors, on les connaît parce que c'est étudié maintenant depuis des années et des années. Et vous avez là 3 facteurs qui vont préexister à des degrés divers avant la lombalgie. Et puis qui, après, vont ne faire que s'aggraver et ça va devenir un véritable cercle vicieux dont le patient n'arrive plus à se sortir. Alors, bien sûr, c'est à tous les degrés. Vous avez donc à gauche le défaut d'entretien physique. Il est certain que s'il arrive un épisode de lumbago, de sciatique, sur une personne qui ne fait pas de sport, qui ne fait pas d'étirement, qui a une hygiène de vie sur ce plan-là, sportive et physique mauvaise, eh bien les lésions elles vont avoir tendance à perdurer parce que l'équilibre musculaire va faire qu'il ne va pas pouvoir compenser un peu cette anomalie. Vous avez à droite ce que j'appelais la fragilité thymique. En gros, c'est le moral. Hein. Quand on n'a pas le moral avant, quand il vous tombe ça par-dessus, eh bien, ça a tendance à durer plus longtemps parce qu'on n'a pas trop les ressources psychique pour lutter contre cette douleur, pour se soigner à temps, pour reprendre éventuellement une activité. On verra que l'activité est primordiale. Donc, ça va finir par, là aussi, être un facteur défavorable. Enfin, difficulté dans le travail, ça a été connu. Hein. On sait que si en plus on n'est pas bien au travail, qu'on vous demande de reprendre le travail relativement rapidement, que déjà il y a des problèmes avant, eh bien, c'est un facteur péjoratif. Et évidemment, c'est un cercle vicieux parce que la douleur en elle-même va aggraver tout ça. Et tout ça va aggraver la douleur, c'est-à-dire le défaut d'entretien physique va aggraver la douleur, le moral, on ne s'en sort pas, et puis le travail également ne va pas être un facteur qui va permettre de faciliter la guérison, ou au moins l'évolution. Voilà, donc on verra tout à l'heure comment est-ce qu'on peut casser ce cercle, en sachant que, ben, heureusement, parfois les gens n'ont pas tous ces facteurs négatifs en même temps, et dans ces cas-là, on a plus de chances de guérir plus rapidement.
Alors, on a terminé la présentation des pathologies. Maintenant, on pourra bien sûr à la fin répondre à des questions plus précisément. On va maintenant aborder que faire devant ces différentes pathologies, la scoliose, la lombalgie, etc. Et donc, c'est Laurence Mille qui va vous parler de la prise en charge de la scoliose par le médecin.
Alors, donc, la scoliose, comme disait le professeur Price, elle se dépiste très généralement pendant l'adolescence, avec une évolution très rapide de la déformation pendant la puberté. Donc vous allez bien comprendre qu'il est très important de la dépister avant la puberté et chez l'enfant. Il est indispensable de pouvoir dépister une déformation de la colonne vertébrale le plus tôt possible. Donc, une fois la scoliose et l'anomalie dépistées, en fait, cliniquement, comme disait le professeur Price, c'est très simple. L'enfant que l'on va pencher en avant, les jambes bien tendues, les mains qui rejoignent les pieds. Donc, on a un regard rasant au niveau du dos. Et voilà, on voit cette anomalie, une asymétrie ou une bosse ou une gibbosité. Voilà, donc vous comprenez soit ce mot-là, soit un autre. Une fois que le dépistage est fait, cet enfant doit être surveillé. Donc, nous estimons en fait que le dos des enfants devrait être vérifié tous les ans. Donc, un enfant qui a un dos normal, voilà, une fois par an, ça paraît essentiel pour le surveiller. Ce qui est intéressant pour le rythme des surveillances, c'est que ces enfants, ces jeunes enfants, consultent régulièrement le médecin généraliste par le biais des vaccinations obligatoires. Donc ça, c'est très important. Donc on a des points importants dans le suivi médical des enfants, les vaccinations, les certificats médicaux, le certificat de la deuxième année, ensuite les certificats juste préscolaires vers 6 ans, et la vaccination obligatoire à 11-13 ans. Donc celle-là, 11-13 ans, il ne faut pas la rater. Parce que justement, on arrive au début de la puberté et cette croissance de l'enfant qui va s'accélérer et qui accélérera également une anomalie. Donc il faut faire attention également, il y a des vaccinations qui ont été supprimées, le 16-18 ans. Donc sachant que les enfants avec l'âge sont moins malades, donc il faut faire très attention entre 6 ans et 10 ans, puisque l'enfant est moins malade, il n'y a plus de vaccination obligatoire. Donc que faire? Est-ce qu'il faut continuer d'emmener ses enfants tous les ans chez le médecin généraliste? Et en fait, ça ne se fait pas particulièrement. Donc je dirais, si le médecin généraliste est la pierre angulaire du suivi des scolioses, les parents ont un rôle essentiel. Et c'est à votre portée. C'est à la portée de tout le monde de regarder le dos de ses enfants au moins une fois dans l'année. Donc ensuite, le suivi clinique et radiologique, une fois la déformation objectivée. Donc il va falloir surveiller tous les 4 à 6 mois. Donc à nous de convoquer cet enfant ou de dire aux parents, voilà, dans 4 à 6 mois, nous allons revoir l'enfant. On va pouvoir surveiller l'arrivée de la puberté. C'est essentiel. Les règles, les premières règles, les premiers poils. C'est très important. Parce qu'à partir de ce moment-là, on a une accélération de la déformation de la scoliose. Le rôle des parents, du médecin scolaire, du médecin du sport. C'est aussi par le biais des certificats médicaux de non-contre-indication à la pratique du sport qu'on peut être amené aussi à voir le dos des enfants. Et faire attention, parce qu'avec la nouvelle loi santé aujourd'hui, les certificats médicaux maintenant sont valables 3 ans. Donc ça, c'est pas une bonne chose, en fait, pour le dépistage des scolioses. Et le médecin généraliste est également bien placé pour repérer les critères à haut risque d'évolution. Parce que certes, on ne va pas envoyer chez l'orthopédiste tous les enfants qui ont une petite déformation du dos. ça encombrerait un peu vos consultations, vous avez autre chose à faire. Donc, les critères d'évolution, selon le bilan, selon l'évolution d'une consultation à l'autre, quand on voit que la déformation, elle s'est vite aggravée au bout de 4 mois ou 6 mois, donc là, il est urgent de pouvoir l'envoyer chez l'orthopédiste, hein, parce que ça ne va pas s'arrêter là. Selon le résultat des radiographies, parce qu'on va mesurer des angles, et à partir d'un un certain degré d'angle, si on a d'évolution rapide de ces degrés, c'est aussi une indication pour l'adresser à l'orthopédiste. Durant cette puberté, on peut avoir des déformations qui arrivent tellement rapidement que le seul traitement chirurgical sera efficace. Donc il faut éviter d'arriver à ce traitement chirurgical et pouvoir faire bénéficier à ses enfants du traitement médical ou orthopédique. Voilà.
Merci. Donc, je crois que la situation est bien résumée. Hein. Les parents, j'approuve entièrement ce qu'il vient de dire, ont un rôle à jouer. Il suffit de regarder avec ses yeux. Alors, dans certains cas, malheureusement, 10% des scolioses diagnostiquées nécessiteront un traitement par corset. Et je vais donc laisser la parole à Anne pour vous parler des traitements dits orthopédiques. Alors, un petit mot d'étymologie. Il y a peut-être des amateurs de grec. Orthopédie, ça signifie remettre droit l'enfant. Et finalement, c'est une spécialité qui existe depuis la nuit des temps.
Alors, donc, pour cette scoliose, ben, y a trois grands traitements auxquels j'ajouterai le quatrième, le sport. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Donc, c'est la kinésithérapie. On va en parler aussi tout à l'heure. Le corset et la chirurgie. Donc là, il se trouve que c'est la diapositive sur le corset. Alors, d'abord, quand ? Et puis, pour qui ? Alors, quand vous avez vu déjà rapidement le premier schéma sur la droite, alors, c'est l'âge, vous voyez, en fonction de l'âge, et en vertical, ce qu'on appelle l'angle de Cobb. Donc, les adolescents qui ont eu des scolioses savent bien ce que c'est. C'est sur la diapositive de gauche. Ça se mesure sur une radiographie ou sur un cliché os, peu importe. C'est l'angle fait par les deux vertèbres les plus inclinées. Donc là, vous avez une courbure, une simple courbure, et donc on va avoir un angle. Ça va déjà nous donner un premier élément. Et ce premier élément, on va le suivre, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir au départ 10-15 degrés, et puis ensuite on va voir, c'est au départ effectivement le rôle du médecin généraliste de voir cette courbure et de se méfier de cette courbure qui risque de s'aggraver. Mais ça n'est pas le seul argument pour décider du corset. Hein, ça va dépendre surtout de l'âge auquel on trouve mettons ces 25 degrés de courbure. Si on trouve cette courbure à 10 ans, à 11 ans, vous voyez toute la croissance qui reste, toute l'aggravation qui risque de se passer après autour de la puberté. Si par contre on trouve un adolescent d'une quinzaine d'années qui a 20 degrés, dont la puberté est terminée, vous voyez qu'on est à la fin de ce schéma. Ça veut dire qu'il va prendre encore 2 ou 3 degrés et dans un certain nombre de cas, il n'y aura pas d'indication corsée. Donc ce n'est pas l'angulation, ce n'est pas la déformation initiale, c'est vraiment un certain nombre d'éléments comme ce que je viens de vous dire. Alors après, il y a d'autres choses, la rapidité d'évolution, hein, prendre 10 degrés en 6 mois, ça montre que c'est très très évolutif à ce moment-là, et il faut intervenir et porter un corset. Alors voilà différents types de corsets, c'est du plus fréquent au un peu plus rare. Vous voyez à gauche un corset, alors ça fait d'énormes progrès, hein, ça reste un traitement contraignant pour un adolescent, surtout les filles, parce que même s'ils sont devenus beaucoup plus esthétiques qu'autrefois, ça reste quand même... donc il faut bien savoir, si jamais il y a des jeunes adolescents, que ce n'est pas un traitement qu'on donne à la légère. Hein. On sait bien les conséquences sur la vie quotidienne. Alors la vie quotidienne, on en reparlera, elle est normale, mais ça veut dire que quand même il faut porter ce corset. Vous avez à gauche un corset dit CTM, qui est un corset assez polyvalent, qui peut se porter la nuit, le jour. Vous avez un corset au milieu que vous ne voyez pas très bien parce que c'est blanc sur blanc. J'aurais dû choisir autre chose. C'est ce qu'on appelle un corset de 3 points qui peut se faire pour des scolioses qui sont plus basses. Parce qu'on n'a pas le temps d'expliquer tout, mais la scoliose, elle peut concerner le dorsal, le lombaire, le dorso-lombaire, avec tout un tas de figures différentes. Et quand on a la chance d'avoir qu'une scoliose lombaire, on peut se permettre peut-être, dans certains cas, d'avoir un corset un peu plus petit, un peu plus facile à porter. Le troisième est un corset uniquement nocturne, qui s'appelle le corset de Caen, parce que c'est à Caen qu'on a fait... Alors c'est un corset en hypercorrection qui ne se porte que la nuit. Et enfin, vous avez à droite un corset un peu historique, mais qu'on est quand même obligé d'utiliser parfois dans certains cas, qui s'appelle le corset de Milwaukee. Ça a été fait dans une ville américaine. C'était un excellent corset parce que, contrairement à ceux que vous voyez là, qui sont très près du corps, lui, il était, grâce à un mât antérieur, un mât postérieur, un peu à distance. Donc l'enfant doit, ou devait, puisque c'était un des premiers corsets, en fait être actif et bouger dans son corset. Et en fait, c'était son activité à lui qui faisait qu'on redressait en partie la colonne. Il est du coup encore très utilisé pour les enfants, les petits, parce que comme il n'est pas collé au thorax, il permet un développement thoracique. Si on met un corset comme le premier sur un thorax, on va freiner un peu le développement thoracique. Voilà, donc ce sont des détails. Alors après, comment on fait? Ça, c'est la première des choses. Combien de temps je vais le porter? Eh bien là, c'est en fonction des cas, du stade d'évolution. Vous avez vu la courbe, à quel moment on se situe. Le port peut être uniquement nocturne. Il peut être permanent quand ça va très vite, quand on est en pleine poussée de croissance, pleine poussée évolutive. On est obligé de le porter en permanence. Et puis parfois, soit parce qu'on est en fin de traitement, soit parce qu'au contraire, on a commencé assez tôt dans l'évolution et on espère casser l'aggravation, on peut parfois, moi j'autorise dans certains cas, le port hors période scolaire. C'est-à-dire que quand l'enfant rentre, hein, ou l'adolescent rentre à 5h ou à 6h, il met son corset, il le met jusqu'au lendemain matin. Ça, les adolescents sont souvent très contents de cette situation un peu, de cette prescription un peu intermédiaire. Mais là encore, c'est dans des critères tout à fait particuliers. Il a porté 24h/24, sauf quand on demande ce port 24h/24, on doit toujours l'enlever lors du sport, bien sûr quand il se lave. Mais j'ai écrit en gros, et ça va être repris plus tard, le sport est recommandé. Hein. J'ai dit que c'était quasiment le quatrième traitement, et dans tous les cas, même dans les grosses scolioses, le sport est recommandé. C'est ce qui permettra par la suite de limiter les douleurs dont on va parler. Durée du port dépend de l'évolution et de l'âge. Bien sûr, si on commence à 11 ans le traitement, on sait qu'il va durer de nombreuses années. Si on le commence à 15 ans avec une puberté un peu tardive, on sait que ça ne va pas durer très très longtemps. Voilà. L'objectif, il est souvent un peu décevant pour les familles, c'est-à-dire qu'on a un adolescent avec une scoliose de 25-30 degrés, et l'objectif n'est pas de revenir à zéro. Hein, aucun corset, et ça se fait depuis plus de 30 ans, n'assure à lui seul. L'objectif, en fait, qu'on peut affirmer, s'il est porté correctement et comme on l'a prescrit, c'est que quand on enlève le corset à la fin de la croissance, on retrouve une angulation qui est celle du départ. C'est-à-dire que si l'adolescent a 25 degrés, eh bien l'objectif, c'est que quand on a terminé, même si on a redressé la scoliose pendant le port du corset, on sait que quand on enlèvera le corset, il va reprendre quelques degrés. Bon, on peut obtenir mieux, mais ça n'est jamais acquis, ça n'est jamais assuré. Et puis vous avez à droite, ça c'est pour les adolescents ou les familles, dont on parle toujours beaucoup du stade de Risser. Donc c'est ce que vous voyez là, c'est un petit schéma sur le bassin. Ce sont le bassin, donc vous avez les deux ailes iliaques de chaque côté, puis vous voyez des petites traces noires qui vont petit à petit c'est ça le test de Risser, c'est l'ossification des crêtes iliaques. Alors vous allez me dire que le rachis, la colonne vertébrale est au-dessus, mais en fait quand l'ossification de ces crêtes iliaques est corrélée à la croissance du rachis, donc quand l'ossification est terminée, ça veut dire que aussi au niveau du rachis, c'est terminé. Donc c'est un argument pour nous quand le Risser commence à devenir à 3+, pour dire que les risques d'aggravation ne sont plus là et qu'on va pouvoir commencer à baisser, enlever progressivement le corset. Voilà.
Alors merci pour le traitement orthopédique au sens étymologique, donc le corset. Alors là, vous verrez dans votre fascicule qu'il y a deux diapos bleus, parce qu'il est maintenant temps au kinésithérapeute de nous expliquer comment lui va prendre en charge la scoliose, que le patient ait ou non d'ailleurs un corset. Donc il y a un petit switch de diaporama qui va me prendre, j'espère, 10 secondes.
Bonjour à tous, donc j'exerce sur Poitiers. Alors c'est la première fois pour moi que je fais ce style d'exercice. J'espère que je vais me débrouiller avec la petite manette. J'avais prévu de m'étaler un peu sur une quinzaine de minutes et j'ai appris qu'il fallait que je le fasse. Enfin, j'ai pas appris, je l'avais pas retenu, surtout qu'il fallait que je le fasse en 5. Autre petit bémol, dans les diapos que vous avez, c'était mon premier jet, c'est bourré de fautes d'orthographe. Et je les ai changés.
Non, c'est celui-là. votre...
Ouais,
à droite encore.
En espérant que ça fonctionne, voilà. D'où le grand saut, en fait. Bon, la marche n'est pas haute. Donc, traitement kiné de la scoliose idiopathique. Je voulais commencer, et je vais le faire quand même pour vous présenter deux petites études. En tant que kiné, je vais encore le dire, parce que j'ai 31 ans, plutôt récent, j'essaye de faire une kiné basée sur les preuves, et donc j'appuie ma pratique sur de la littérature scientifique. Et donc j'ai cherché ce qui existait un peu, et j'ai trouvé deux études, une de 2000 et une de 85, où le but c'était de vérifier si la kiné était un traitement efficace dans le traitement des scolioses. Et donc dans les deux cas, donc, comment on fait tout simple, on prend un groupe de patients, ici il y en avait 590 cas, si je trouve le petit bouton, voilà. On les sépare en deux groupes, un des groupes de scoliose, pardon, on fait un traitement rééducatif, et à l'autre groupe de scoliose, on ne leur fait pas de traitement rééducatif. L'autre étude, la précédente de 85, avait eu le même objet, le même objectif. Et dans les deux cas, on a trouvé que dans le groupe qui avait de la rééducation, le nombre de scolioses aggravées était moindre que dans le groupe qui n'avait pas de rééducation. Et deuxième point, dans le groupe avec traitement, il y avait plus de cas non aggravés. Donc ces deux éléments montrent que la kiné est efficace. Et statistiquement, en moyenne, la kiné permet d'éviter une majoration d'angle de 8 degrés et une gibbosité qui est moins importante. Ça veut dire quoi ? Que si vous avez une scoliose de 28 degrés sans kiné, on peut espérer statistiquement, ce sont des moyennes, hein, que la kiné aurait permis d'avoir une scoliose que de 20 degrés uniquement. Voilà, autre point extrêmement important... Dans le groupe qui a eu de la rééducation, le port de corset, enfin la prescription de corset, a été diminuée de 50%. Donc la kiné a permis à éviter pour la moitié des enfants d'avoir un corset. Vous avez un peu compris que le corset, ça n'avait pas l'air sympa. Donc ils étaient contents. Voilà, donc le bien fondé de la rééducation dans la scoliose. Il y a différentes méthodes spécifiques à la rééducation de la scoliose en kiné. Je vous ai mis quelques noms en bas. Les plus répandus sont les trois premières, la CLAP, la méthode Scrott et la méthode de Van Niederhofer. Pour ma part, je n'en pratique aucune. J'ai fait ma petite popote, j'ai pris ce qui me plaisait dans chacune des méthodes et j'ai basé mes soins là-dessus. Plutôt que de partir dans des longs... discours et les envolées potentiellement lyriques, je vous présente un cas concret qui va venir pile poil après les diapos que vous avez eues. Donc c'est le cas d'Anthony, qui est un patient que je suis encore actuellement. Anthony, il a été voir son médecin, et donc son médecin a trouvé qu'il avait une petite scoliose, et du coup il a enchaîné tout le protocole qu'on vous a un peu décrit précédemment. Et donc ça a commencé par une première radio qu'Anthony a fait, donc il y a 3 ans, on est rendu en octobre 2014. Donc Anthony va faire sa radio et là on lui diagnostique donc une scoliose lombaire à convexité gauche de 12 degrés avec une rotation des vertèbres, une petite bascule du bassin et un indice de Risser à 0, donc il est au tout début. Le médecin décide d'attendre de voir pour le port du corset, il lui propose de pratiquer du sport, de faire de la kiné et un suivi régulier par plusieurs médecins, donc un médecin du service de médecine physique et réadaptation ainsi qu'un chirurgien orthopédique. Donc je commence ma rééducation avec Anthony en décembre 2014, il y a 3 ans. Le voici, mon examen clinique, je vois un enfant qui se présente plutôt bien. Tout de même, on a une attitude un petit peu hypotonique. On a surtout un rapport entre le tronc, la taille du tronc et la taille des jambes qui est à noter. On verra pourquoi après, notamment par rapport à la croissance osseuse, où là on dirait presque que le tronc il fait la moitié de la taille des jambes. Voilà, on peut remarquer aussi que la scoliose se voit visuellement avec un espace entre le thorax et le bras qui est plus important d'un côté que de l'autre. Le reste est plutôt normal, on va dire. De dos, je vois une petite bascule du bassin avec un bassin qui tombe à gauche quand je prends mes repères osseux. Une jambe gauche qui est un peu plus courte, rien de méchant. Ça arrive à tout le monde et c'est sans problème. Ensuite, on fait ce fameux test de flexion pour dépister les scolioses qui consiste à faire pencher la personne en avant, et là on voit que du côté gauche au niveau lombaire, on a effectivement une petite gibbosité qui apparaît, ce qui confirme la scoliose lombaire gauche. Je vous ai représenté le dos d'Anthony ici avec l'image radiologique correspondante. donc scoliose à convexité du côté gauche. Voilà, le reste de l'examen clinique est normal. Donc du coup, je propose un traitement kiné. Je passe. Qui consiste en des assouplissements, donc spécifiques par rapport à sa scoliose, sur le côté, en rotation, en flexion, en extension, des étirements des muscles des membres inférieurs, également au niveau du bassin, des assouplissements plus spécifiques ici et ici, du renforcement en position symétrique pour essayer de gainer son dos, donc avec des exercices que vous pouvez peut-être connaître, comme du gainage, des abdos, un petit exercice plus particulier pour les scolioses ici, parce qu'il va essayer de recruter le muscle iliopsoas, qui est un muscle important dans le traitement de la scoliose lombaire. Voilà, autre type de renforcement symétrique en position corrigée pour essayer d'apporter plus de structure musculaire à son dos pour corriger la déviation. Un renforcement musculaire ici asymétrique, où on va essayer d'attraper le muscle qui s'appelle le carré des longues, qui a aussi un rôle important dans les scolioses lombaires. Et puis un travail plus global derrière pour assurer en l'occurrence une bonne stabilité au niveau du... Si je pointe pas au bon endroit, une bonne stabilité au niveau du bassin en faisant des cuisses et un bassin assez costaud. Ça fait 6 mois qu'on fait les soins. On a commencé en octobre 2014, on est rendu en avril 2015 et la radio a été faite, la scoliose n'a pas bougé, youpi, on est content. On continue les soins, seulement là on est arrivé en novembre 2015, ça va faire un an et la scoliose elle a pris 22 degrés. Donc malgré le traitement rééducatif, la scoliose s'est aggravée. Du coup, il a décidé de mettre en place un corset avec un port de 23 heures sur 24. Le corset fonctionne. Voici quelques photos de Anthony avec son corset. Quand je vous disais tout à l'heure que ça n'avait pas l'air sympa. 23 heures sur 24. Hein. Quand ça vous gratte le dos, vous êtes bien embêté. On poursuit les soins, donc kiné plus corset. On est rendu en août 2016. Sous corset, la scoliose est moindre évidemment. Et l'indice de Risser commence à augmenter. Comme le corset est contraignant à mettre, on décide de le mettre le jour et la nuit, sauf à l'école, comme vous parliez tout à l'heure, Madame Delobier. Voilà, on poursuit les soins. On est rendu en décembre 2016. La scoliose a un petit peu évolué, mais aussi l'indice de Risser. Je vous rappelle que plus le Risser va vers 5, plus la croissance s'arrête. Donc mieux c'est pour la scoliose, parce qu'on sort de la zone de danger, là où elle évolue le plus. On continue encore les soins, donc le corset est rendu plus qu'en port nocturne, on est rendu en juin et en septembre 2007, on a une scoliose de 20 degrés qui semble être stable, puisque 19 et 20 entre les écarts de mesure radio, ça reste à peu près identique, et surtout l'indice de Risser lui continue à progresser, donc Anthony voit un peu le bout du tunnel en faisant ça. Les prochaines consultations sont prévues plus tard. Tout à l'heure, en voyant Anthony de face, je vous ai fait remarquer la différence entre le rapport de la taille du tronc et la taille des jambes. Donc ça, c'est une photo de la semaine dernière, où vous voyez que, bon, il a grandi Anthony, mais vous voyez que le rapport entre la taille du tronc et la taille des jambes n'est pas tout à fait le même que tout à l'heure. Globalement, Anthony, en 3 ans, il a pris 16 cm, et d'après les mesures de taille qu'on a fait, il a pris 10 cm en l'espace de 6 mois, durant l'année 2015. Et par rapport au compte-rendu radio, ça colle pile poil avec la période où il a pris 10 degrés sur sa scoliose. Donc vous voyez pleinement le lien entre la croissance du dos et l'évolution de la scoliose. Donc si on fait un petit calcul, ça fait pendant 6 mois une croissance de 1,5 cm par mois. Et donc du coup, par rapport au cliché de face, on peut voir qu'il a beaucoup croix sur le dos. Voilà, une prise en charge en kiné pour une scoliose, c'est un petit peu lourd, dans le sens où Anthony, ça fait 3 ans qu'il est avec moi, ça fait 210 séances qu'il a fait, et c'est pas fini. Anthony, je l'embête 2 fois 1 heure par semaine. On continue la kiné, je crois que ce soit OK pour lui. OK pour lui, visiblement, c'est par rapport à son indice de risque, c'est bientôt fini. Voilà, et puis à ma grande stupéfaction, quand je lui ai posé la question, il m'a répondu qu'il aimait bien la kiné, que c'était sympa, qu'il s'y faisait, et qu'il pensait que c'était efficace. Donc ça, c'est le plus important. Voilà, but de la kiné, limiter l'aggravation, stabiliser la déviation. Si on peut la réduire, on le fait, mais vous avez compris que scoliose, ce n'est pas quelque chose de bénin et de facile. Et surtout, donc, je confirme le propos précédemment, attention lors des phases de poussée, de croissance de vos enfants, pensez à les surveiller. Et merci Anthony.
Alors, on va passer maintenant toujours un petit switch de diaporama. Et Laurence va nous parler du problème, enfin qui n'est pas un problème d'ailleurs, de l'intérêt si ce n'est de l'indication absolue, y compris quand on a une scoliose, de pratiquer du sport. Et donc, je lui laisse la parole. Oui, parce que là, je le connais mieux, celui-ci. Voilà.
Donc, Anne, tu mettais en quatrième position le sport. Es-tu d'accord avec moi et professeur Price de le mettre en première position ?
Oui, c'était pas hiérarchisé.
Donc c'est primordial. Toutes les études, donc on ne dit pas ça gratuitement, toutes les études concordent pour dire qu'il n'y a pas d'activité physique contre-indiquée. Il n'y a pas de sport scoliogène qui vont entraîner ou aggraver la scoliose. Il y a quelques cas particuliers, j'ai lu dans la littérature, la danse professionnelle, il y a une étude qui a été faite à ce sujet-là sur des adolescentes qui a montré l'apparition d'une scoliose et la gymnastique. Alors, pour la danse professionnelle, en fait, ce sont des sous-groupes particuliers, ce sont des jeunes, c'était des jeunes filles en hypoestrogénie, donc pas réglées, des retards de règles et peu matures, avec un tissu cutané et articulaire très lax, avec des grandes laxités. Donc vous voyez, on est dans vraiment un sous-groupe particulier. Et pour la gymnastique, donc j'ai lu ça aussi dans la littérature, ça concernait une charge d'entraînement pour des enfants à partir de l'âge de 5-6 ans jusqu'à 20 heures de gymnastique par semaine. Voilà. Donc on est sûr aujourd'hui, il n'y a pas de contre-indication à faire du sport. Donc il ne faut pas vous précipiter et d'aller chez le médecin généraliste pour réclamer un certificat de contre-indication au sport. Le sport scolaire, le sport en club, bien au contraire, il faut en faire. Ça va permettre à la musculature de se développer et de donner un développement harmonieux du corps de l'enfant. Alors, on est vraiment dans l'actualité. Donc, je voulais juste vous rappeler que dans la nouvelle loi santé de janvier 2016, la loi de modernisation de notre système de santé, le sport a été mis enfin à l'honneur. Parce que ça fait des décennies et des décennies que les études vont, c'est vrai, vont dans le même sens pour expliquer les bienfaits du sport dans toutes les maladies. D'abord pour le maintien de la santé, ensuite comme base de tout traitement de maladies chroniques. Donc cette nouvelle loi santé, avec son décret d'application en décembre 2016, permet aujourd'hui aux médecins de faire une ordonnance d'activité physique et sportive. Nous pouvons prescrire, et notamment aujourd'hui plus particulièrement pour les personnes, pour les patients qui sont en affection longue durée, on peut faire une ordonnance activité physique et aider son patient à se mettre en activité. Voilà, l'activité physique donc permet le maintien de la santé, diminue l'arrivée et les événements cardiovasculaires, permet de contrôler le poids quand on pense à l'obésité des enfants, permet de contrôler ou d'aider à gérer le stress, l'anxiété et la dépression, et permet de mieux vieillir, en fait. Voilà. Donc, le sport a évidemment tout son intérêt dans la pathologie chronique qu'est la scoliose chez l'enfant et l'adolescent. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Alors, je reprends la parole. Il est donc des formes rares, mais réelles, existantes, graves, qui peuvent conduire à un traitement autre que conservateur et qui n'empêcheront d'ailleurs pas le sport. Et c'est à dessein que je vous ai mis cette photo de Laetitia que j'ai opérée il y a maintenant 27 ans, dont vous voyez le résultat à l'époque, hein, la déformation avant et après, et qui, je vous le garantis, a repris une vie normale. Elle a travaillé, elle fait du sport. Elle a eu 3 enfants, dont malheureusement une fille a également une scoliose que j'ai opérée elle il y a quelques années. Ça veut bien dire que ces formes graves sont bien en faveur d'une origine génétique, développementale, dès le stade embryonnaire. Des équipes anglo-saxonnes à Londres ont identifié des délations sur certains chromosomes, au nombre de 3. Des équipes de recherche en Asie ont identifié des facteurs neuro-hormonaux qui expliquent que la scoliose s'aggrave la nuit, d'où l'intérêt, comme le disait Anne, dans certains cas, de faire porter le corset uniquement la nuit. Et donc, dans les formes graves, malgré le traitement, qui sont parfois, mais pas toujours, des formes familiales, il y a toujours un des individus de la famille qui va débuter la forme grave, eh bien, la chirurgie peut être nécessaire. Alors, elle se pratiquera en fin de croissance, bien sûr, pour ne pas faire perdre trop de taille. Et elle a comme objectif de corriger la déformation et d'obtenir un rachis équilibré. J'en reviens à mon petit schéma du début, avec l'homme de Néandertal comparé à nous. Et finalement, l'essentiel, pour être bien, c'est d'avoir la tête au milieu du bassin. Ça semble évident, mais c'est comme ça. Et donc, la chirurgie aura comme but de ramener la tête au niveau du bassin. Alors, c'est une technique de ce qu'on appelle une arthrodèse, c'est-à-dire que pour que les vertèbres ne se déplacent plus dans l'avenir, on va les bloquer. On va les bloquer, bien sûr, malheureusement, définitivement. Donc, on continuera la surveillance des patients. Alors, c'est une chirurgie qui nécessite un milieu hospitalier spécialisé, qui se pratique donc que dans les CHU, puisqu'on va bien sûr, pendant toute la correction, surveiller la moelle épinière. Par contre, c'est une chirurgie dont les suites sont assez rapides une fois qu'elle est réalisée. Donc, vous voyez à gauche la colonne qui est tordue, dans laquelle on va insérer à différents niveaux des vis. Alors, bien sûr, là, on partait d'un angle de 90 degrés. On ne va pas pouvoir revenir ni à 0 ni à 10 degrés, mais en l'occurrence à 22, au moyen donc de fixation dans les vertèbres et de manœuvres de correction. Et vous voyez la patiente au 5e jour avant sa sortie, sachant qu'au 21e jour, elle pourra aller chez le kiné. Alors, on attend quand même 3 semaines pour que les tissus cicatrisent, évidemment. Au bout d'un mois, elle reprendra l'école et elle commencera à reprendre le sport, en gros, au bout de 2 mois. Sachant que dans la plupart des cas, les études faites avec des reculs de 20 ans, puisque c'est une technique utilisée depuis maintenant 30 ans, toutes les études ont montré que c'était des femmes, des adolescentes devenues femmes, qui ne consommaient pas plus de médicaments contre la douleur que les autres, qui avaient le même taux d'activité professionnelle, le même nombre d'enfants et le même taux d'activité sportive. Mais je rappelle quand même que ça s'adresse effectivement aux formes les plus graves. Alors maintenant qu'on a épuisé le sujet sur cette maladie, scoliose, on va aborder les problèmes du rachis vieillissant de l'adulte. Et je vais repasser tout de suite la parole à Laurence Mille qui va nous parler, je vous rappelle du plan du début, du traitement, de la prise en charge médicale du lumbago.
Alors, donc, le lumbago aigu, comme expliquait le professeur Pris, donc c'est une douleur brutale dans le bas du dos, le rachis lombaire. Donc, pardon, comme vous voyez sur la photo. J'ai précisé, alors ça peut être c'est souvent lié à un mauvais mouvement, surtout la flexion. Alors la flexion du tronc, la rotation et l'inclinaison, donc ça y est, c'est pas bon. Ce mauvais mouvement peut avoir lieu la veille ou l'avant-veille. C'est pas au jour J que vous pouvez faire la lombalgie aiguë. Il est tout à fait possible que le mauvais mouvement ait été fait quelques jours auparavant. Alors j'ai précisé lumbago aiguë discale ou articulaire postérieure, parce qu'il y a plusieurs causes donc, à cette douleur. Je voulais me mettre ici pour vous montrer. Donc on a soit une compression discale, donc vous voyez le disque entre les vertèbres. Donc c'est un espèce d'anneau fibreux et à l'intérieur, il y a un noyau gélatineux. Et quand vous faites ce mauvais mouvement d'écrasement du disque, ce noyau s'expulse à travers le tissu fibreux. Et ça va donner une petite protrusion du disque. Et derrière, il va comprimer le grand ligament vertébral qui relie toutes les vertèbres. Donc, cette douleur brutale, c'est vraiment un conflit disco-ligamentaire. Voilà. Mais ça peut être également un problème au niveau des articulaires postérieurs. Vous allez voir que les vertèbres sont agencées les unes sur les autres. Ah oui, en effet. Et donc vous voyez l'articulaire postérieur de cette vertèbre qui est en correspondance avec l'articulaire inférieur de cette vertèbre. Donc un mauvais mouvement peut donner aussi une dysfonction de cette articulation-là et donner la même douleur. Alors soit une dysfonction tout simple chez les sujets plutôt jeunes, soit une décompensation arthrosique de cette articulation qui va être également exposée à l'arthrose. Donc voilà un peu les différentes causes de cette douleur brutale dans le dos. Donc il est important de consulter votre médecin, parce que dans un premier temps, nous, on va rechercher quand même les signes de gravité. Cliniquement, en vous examinant, on va être capable de dire si c'est une protrusion toute simple, voilà, c'est tout. Le disque est un petit peu bougé. Ou bien si la protrusion, elle est plus importante et si elle va toucher les racines nerveuses pour donner soit une sciatique sur l'étage, la dernière lombaire, ou bien une cruralgie si c'est l'étage un peu au-dessus, ou bien si la protrusion, elle est plus importante derrière et va toucher la dure-mère. Voilà, ça, ce sont des petits signes de gravité. Et pour nous, c'est important de le savoir parce que ça va conditionner le repos qu'on va préconiser. Et aussi, donc, on va pouvoir éliminer une urgence. Il peut y avoir une urgence dans un lumbago aigu qui va commencer à irradier, c'est-à-dire qu'il touche une racine, la comprime et donne des troubles neurologiques. Donc le médecin va regarder s'il n'y a pas des troubles neurologiques. Je prends la C'est la suivante, je pense. Ouais. Donc la prise en charge, elle est toujours médicale, sauf l'urgence dont je vous parlais, l'urgence qui va comporter des troubles neurologiques et des déficits. Donc prise en charge médicale, le repos selon l'intensité de la douleur et selon nous, les signes cliniques que l'on va trouver, parce qu'on va s'orienter plus sur du disque ou sur des articulaires postérieurs. Mais ce repos doit être bref, donc il rejoint la dernière ligne, parce que la reprise de l'activité, elle doit être le plus rapide possible. Des antidouleurs, tout simplement, paracétamol, première intention, ou ibuprofène. Des anti-inflammatoires, c'est possible, selon l'intensité de la douleur, de les associer. La corticothérapie, quelquefois les anti-inflammatoires sont inefficaces ou le patient reconsulte parce que la douleur n'est pas contrôlée par et les antalgiques et les anti-inflammatoires. On peut, de temps en temps, avoir à penser à la corticothérapie, surtout lorsqu'on a des petites irradiations, des petites radiculalgies dans la jambe qui évoquent la cruralgie. Des décontracturants musculaires. Donc en aigu, toujours en aigu, l'ostéopathie peut être intéressante. Surtout quand cliniquement, on est plus en faveur de problèmes sur les articulaires postérieurs. Là, l'ostéopathe peut être efficace. S'il n'y a pas de radiculalgie et qu'on a une douleur, rien que lombaire. Ça nous arrive de devoir faire une infiltration également épidurale sur des douleurs persistantes qui vont résister au traitement simple. Voilà. Et ceci dans le but d'une reprise d'activité rapide.
Alors, avant de laisser de nouveau la parole à notre kiné qui va nous parler du traitement par la kinésithérapie McKenzie, dont certains ont peut-être déjà entendu parler, un petit mot. Comme vous l'avez compris, la sciatique, c'est quelque part ce qui peut suivre le lumbago dans le cas où la racine est vraiment comprimée. Alors, la sciatique, la définition, je vous ai montré les schémas, c'est une douleur qui descend dans le pied. Sinon, ce n'est pas une sciatique. Ou une cruralgie au pli de l'aine et devant la cuisse. Donc, quand il y a une sciatique, le but du traitement, c'est d'abord de soulager la douleur, bien sûr, Alors les antalgiques, voire les anti-inflammatoires, mais attention aux anti-inflammatoires, hein, toujours des cures courtes. Et donc maintenant, notre kiné va nous dire la place de la kinésithérapie, donc dans le traitement de la sciatique, par la méthode McKenzie. Et je vais donc de nouveau faire le switch, mais je pense que j'ai mieux repéré maintenant où était le... C'est donc, voilà, hop, et c'est en haut. Diaporama, voilà.
Bon, je vais pas vous la refaire deux fois, mais on devait faire une grosse croisière à McKenzie, mais je pense qu'on ira juste au bord de la plage et puis on va rentrer. J'ai deux challenges. Le premier, c'est le traitement de la sciatique. Et le deuxième, c'est la présentation de la méthode McKenzie. Est-ce que certains d'entre vous connaissent la méthode McKenzie ? C'est une méthode qui est plutôt récente, qui n'est pas connue encore de partout, mais qui a quand même de sacrés avantages. Je la pratique presque depuis que je suis diplômé. J'y trouve mon compte largement et j'arrive à m'en sortir pour la plupart des pathologies que je rencontre au cabinet. Pour moi, c'est un traitement de choix. Forcément, c'est mon truc. Donc, c'est une méthode qui est un petit peu originale, vous allez comprendre pourquoi. Tout d'abord, la méthode McKenzie, c'est une méthode de diagnostic et de traitement mécanique. Je répète, diagnostic et de traitement mécanique. Donc, ça s'adresse aux douleurs qui sont mécaniques, des symptômes de la colonne et des articulations périphériques. Les principes qui régissent la méthode sont le travail actif. Les études montrent que c'est les thérapies qui sont les plus efficaces sont celles où le patient est acteur dans ses soins et ce sont celles où le patient il fait des choses pour sa santé. C'est le cas dans cette méthode-là. Travail actif, le patient fait lui-même. On va chercher à avoir l'autonomie du patient qui peut se débrouiller tout seul avec des exercices simples qu'il puisse reproduire chez lui et qu'il doit reproduire chez lui, qui apporte un soulagement rapide de ses douleurs. Voilà, c'est une méthode étayée par plus de 300 études, donc qui scientifiquement tient la route. Toutes les douleurs donc mécaniques, avec ou sans irradiation, que ce soit lombalgie avec sciatique ou pas, sont évidemment indiquées, à condition que ce soit bien des douleurs mécaniques. Tout ce qui est pathologie inflammatoire, je rebondis par rapport au stade aigu juste précédemment, quand c'est un stade aigu, c'est pas le moment de faire cette méthode-là. Tout simplement parce que quand c'est aigu, c'est plutôt inflammatoire et donc c'est pas à prédominance mécanique. Je voulais apporter une petite différence entre la sciatique et la sciatalgie. Ça change finalement pas grand-chose, mais tout de même, vu qu'on parle de ça, on est sur une topographie de symptômes qui est plutôt identique, avec lombaire, fesses, cuisses, mollets, pieds. Une différence entre la sciatique vraie et la sciatalgie. La sciatique vraie, vous allez pouvoir, les patients nous décrivent précisément un trajet. Au niveau de leurs fesses, leurs cuisses, leurs mollets et leurs pieds, ils peuvent le montrer avec le bout du doigt, presque nous le dessiner sur la peau s'ils veulent. La sciatalgie, on est sur des symptômes qui sont plutôt diffus, assez vagues, assez sourds. C'est reste en même topographie, hein, lombaire, fesses, cuisses, mollets. La différence, c'est donc qu'ils ne peuvent pas les préciser avec le doigt. Dans les deux cas, ça ne change pas grand-chose, puisque l'origine se situe soit pour le cas de la sciatique avec un conflit entre le disque et la racine, soit dans le cas de la sciatalgie, avec un problème au niveau de votre disque. Alors comme je dois faire court en 5 minutes, j'essaye de revoir les informations qui sont importantes pour vous. Voilà, dans les deux cas, donc, soit sciatique ou sciatalgie, une évaluation mécanique est recommandée. Et donc dans les deux cas, la méthode peut potentiellement vous aider. Qu'est-ce qu'on fait quand vous arrivez au cabinet avec une sciatique ou une sciatalgie et des problèmes lombaires ? On va déjà vérifier avec notre petit interrogatoire s'il y a des contre-indications à ce qu'on intervienne sur vous. Donc est-ce qu'à intervenir sur vous, on vous met en danger ? Et est-ce qu'on décèle des pathologies sérieuses ? On va regarder le délai de votre problème et on va surtout prendre vos marqueurs. Les marqueurs, c'est quoi ? Votre douleur, où est-ce qu'elle est ? Montrez-moi, au dos, oui, dans la fesse, où ça, la cuisse, montrez-moi où ça passe. L'intensité, à combien vous avez mal, est-ce qu'il y a des pertes d'amplitude associées au niveau de la colonne, quel gène fonctionnel ça provoque pour dormir, pour s'asseoir, pour rester assis, pour se relever de la position assise, pour courir, pour faire tout ce dont vous avez besoin, et s'il y a d'autres signes associés comme une perte de force, de sensibilité en cas d'atteinte de votre nerf. On va d'abord commencer par confirmer l'origine lombaire du problème. Donc vous venez avec votre sciatique, nous on va savoir si ça vient de votre dos ou pas. C'est extrêmement simple, on fait bouger votre dos et on voit avec vous dans l'activité de tous les jours. Est-ce qu'il y a des postures ou contraintes au niveau de votre dos qui influencent vos symptômes? Si les postures, activités, contraintes ou mouvements de votre dos influencent vos symptômes, c'est donc une origine lombaire et c'est un profil de douleur mécanique. Donc là, on est un peu content. Je l'ai mis en gris parce qu'il commence juste à être content, en fait. L'originalité de la méthode McKenzie, elle se situe un peu par là. Le but, comme on ne sait pas soigner toutes les pathologies de tout le monde, McKenzie a eu la bonne idée de regrouper les gens par profil de douleur. C'est-à-dire qu'on va regarder le comportement de votre douleur, comment est-ce qu'elle évolue dans la journée, qu'est-ce qui va l'empirer, qu'est-ce qui va la soulager, et on va voir si on peut comparer votre comportement de douleur à vous à des profils que nous, McKenzie, on a dans la tête. Donc il y a différents profils, profil A, profil B, profil C. L'intérêt, c'est que nous, on sait que si on applique le traitement A au profil A, on sait que le traitement A il est très efficace sur le profil A. Si on fait le traitement B sur le profil B, on sait que le traitement B est très efficace sur le profil B. Si on fait un traitement A sur un profil C, on sait que le traitement A il n'est pas du tout efficace sur le profil C. Du coup, en termes de traitement, là-dessus, on est plutôt à l'aise une fois qu'on sait quel est le profil de votre douleur. La difficulté consiste à savoir à quel profil du coup vous appartenez. Et donc on a une sorte de triage diagnostique à faire. Donc je répète, la démarche, on compare le comportement de votre douleur à des profils de comportement que l'on connaît et dont on sait le traitement et son efficacité. Donc vous venez nous voir, on vous fait votre petit bilan, on exclut les contre-indications à ce qu'on puisse intervenir sur vous, on vous fait bouger dans tous les sens, le but c'est de comprendre ce que votre dos il a. On fait notre diagnostic McKenzie. En gros, on part de ça où on ne vous connaît pas et on essaye de vous classer dans un des profils que l'on connaît. Le profil qui revient le plus souvent, il s'appelle joliment le dérangement. C'est un profil que l'on retrouve dans 70% de la patientèle lombalgique mécanique, notamment quand vous avez une lombalgie simple ou une lombalgie avec irradiation. Le dérangement, on sait ce que c'est quelque chose de très précis, de très défini, on sait très bien l'identifier, on peut presque prédire comment ça va se passer pour vous, et donc je le répète encore une fois, on sait le traiter efficacement. C'est le très bon pronostic. Donc quand on vous a diagnostiqué dérangement, là on commence à être plus content parce que le petit bonhomme il est en couleur. Au passage, vous venez pour une sciatique. Il y a environ 60% des gens qui ont une sciatique qui ont un comportement de dérangement dans leur dos. Potentiellement, on arrive à soulager 60% des gens avec des sciatiques. Nous, au cabinet, on travaille avec un neurochirurgien du CHU qui nous adresse des patients, c'est-à-dire que lui, il est sur le point de les opérer, les patients. Il est à deux doigts de les mettre sur la table d'opération, il a commencé à préparer le bistouri, mais avant, donc il y a peut-être des fois une hernie, il y a des symptômes dans la jambe, il y a tout ce qu'il faut. Avant, il veut vérifier que la méthode McKenzie ne peut pas être une solution pour eux, donc il nous les adresse afin qu'on les teste. Et bien, on arrive à trouver, ça correspond avec ces chiffres-là, à peu près pour 50 à 60% des gens qui viennent en préopératoire, on arrive à trouver une solution pour eux. Donc ça ne vient pas du fait qu'on soit magicien ou autre, hein, c'est des statistiques. Et voilà, une fois qu'on sait que ça vient de votre dos, une fois qu'on sait que ça s'appelle un dérangement, on va chercher une préférence directionnelle. Une préférence directionnelle, c'est quoi? On fait bouger votre dos et on voit comment votre douleur est influencée par rapport au mouvement qu'on fait. Et la préférence directionnelle, c'est la direction de mouvement dans laquelle on va améliorer vos marqueurs. Les marqueurs, vous vous rappelez, c'est la localisation, l'intensité, ce qui vous gêne dans la journée. Quand on a trouvé une préférence directionnelle, donc une direction de mouvement qui vous améliore, et bien là, on est très très content. On en vient à la définition du qu'est-ce qu'une direction de mouvement qui est bonne pour vous et qu'est-ce qu'une direction de mouvement qui n'est pas bonne pour vous. Et là, si j'avais qu'un seul truc à vous dire ce soir, ce serait celui-là. Vous venez au cabinet avec une lombalgie et une sciatique. Ça vient de votre dos. Vous êtes dans un profil que l'on sait traiter qui s'appelle un dérangement. On trouve chez vous une préférence directionnelle. On est très très content. Maintenant, on va chercher le phénomène de centralisation. La centralisation, c'est un phénomène clinique qui est basé sur l'évolution topographique de vos douleurs et non pas sur l'intensité. C'est-à-dire qu'à la suite d'exercices qu'on va vous faire, on va voir si on arrive à vous faire remonter la douleur vers le dos ou si au contraire, elle descend vers le pied. Même au sein de ce que vous faites chez vous tous les jours, est-ce qu'il y a des positions dans lesquelles votre douleur descend? Est-ce qu'il y a des positions ou des mouvements dans lesquels votre douleur elle remonte? Peut-être que ça parle déjà à certains. Eh bien, la centralisation, c'est quand la douleur elle remonte vers le dos. Hein, on peut traduire centralisation par ramener au centre, en l'occurrence votre dos. on raisonne en termes de topographie et pas d'intensité. C'est-à-dire que la centralisation, quelqu'un qui a mal à 3 sur 10 au niveau du mollet est potentiellement de moins bon pronostic que quelqu'un qui a mal à 7 sur 10. Non, pardon, je l'ai fait à l'envers. Quelqu'un qui se plaint d'une douleur au mollet est potentiellement de moins bon pronostic que quelqu'un qui a fortement mal au dos. Il vaut mieux que vous ayez très mal au dos plutôt que vous ayez une petite douleur au mollet. Donc c'est bien la topographie qui importe et pas l'intensité de vos douleurs. Un petit schéma pour expliquer ça. Vous venez au cabinet avec une lombalgie et une sciatique, on fait des exercices, votre douleur elle remonte au niveau de la cuisse, puis au niveau de la fesse, puis elle est en barre lombaire, et puis après on arrive à en faire un tout petit point centré au dos. Même si ce petit point il est très intense, du fait que la douleur elle est remontée, ça veut dire que ça a centralisé. Et quand ça centralise, vous avez compris qu'on est très, très, très content. L'inverse est également vrai aussi. Si vous faites une activité ou si à la suite de nos exercices, vous avez une douleur qui part du dos ou qui était au début dans la fesse et qu'avec les exercices, elle descend dans la cuisse, au genou, puis dans le mollet, ça veut dire que ça périphérise. A priori, ce n'est pas la bonne direction. Donc, la centralisation, c'est quand ça remonte. Et quand ça remonte, c'est de très, très bons pronostics. Il y a plein d'études qui expliquent ce phénomène-là et qui le valident. Donc vous venez nous voir avec une lombalgie, une sciatique, on trouve que ça vient de votre dos, on sait à quel profil vous appartenez, on trouve une préférence directionnelle, et si en plus vous centralisez, c'est parfait, la vie est belle. Je la refais succinctement, pour que ce soit clair. Vous avez une lombalgie avec fesses, cuisses, mollets, pieds, on fait un interrogatoire, on fait bouger votre dos, on regarde à quelle classe vous appartenez. Alors des fois, on est tout de suite très confiant dans notre diagnostic, et puis des fois, il nous faut 3-4 séances pour trouver le bon diagnostic. Et une fois qu'on sait dans quelle classe vous appartenez, on essaye des mouvements. Si possible, on trouve une préférence directionnelle. Et si c'est encore mieux, on trouve un phénomène de centralisation. Du coup, vous repartez chez vous avec un exercice parmi ceux-là. Je vous en ai mis quelques-uns. Ça va dans tous les sens, hein, en arrière, en avant, sur les côtés, assis, debout. Des fois, on met un peu les mains, mais c'est le moins possible parce que dans notre intervention, on va essayer de vous rendre le plus autonome. Donc nous, moins on vous touche et mieux c'est pour vous. Le but, c'est que vous puissiez vous débrouiller tout seul avec des exercices que vous pouvez faire tout seul chez vous. Donc vous partez avec un exercice qui va améliorer vos marqueurs. On va rechercher avec vous qu'est-ce qui a pu causer votre sciatique. On va voir avec vous comment éviter les récurrences à l'avenir. Et puis s'il y avait des activités qui sont cessées, on va essayer de le reprendre graduellement. La sciatique, un problème majeur, a un impact parfois dévastateur. On a quand même des patients qui sont des fois en situation très compliquée, parce que quand vous avez un truc qui vous tire de la fesse au pied, bah, c'est vraiment pas sympa. Avec un impact financier, un impact psychologique sur la vie personnelle, les activités de loisirs, activités professionnelles, bien souvent sur la vie intime. Mais des fois, une sciatique en McKenzie, la solution, elle est si simple, il suffit de faire un petit exercice pour centraliser votre douleur et vous débarrasser de ça. Voilà, je prends le temps de vous la dire celle-là. La douleur est plus un signal d'alerte que la manifestation d'un tissu blessé. Écoutez votre dos, quand ça descend sa périphérie, c'est pas bon, on arrête. Quand ça remonte, c'est bon signe, on continue. Il y a des bonnes douleurs, donc celles qui centralisent. La majorité des contraintes sont en avant, souvent la solution est en arrière. Merci de m'avoir écouté.
Alors, on va terminer maintenant, donc je cherche la petite icône pour sortir du diaporama. Tac, tac. Ah. 2 secondes. Oui, j'ai cliqué. Voilà. Donc, nous allons terminer par les cas où, malheureusement, le traitement conservateur, c'est-à-dire médical suivi de kinésithérapie, ne fonctionne pas. Pour revenir. Voilà, c'est bon. Donc, pour revenir au cas rare, et là, j'insisterai sur un point, il a longtemps couru une, c'était pas une rumeur, mais c'était une règle qui voulait que quand la sciatique est due à une hernie discale, eh bien, il faut opérer la hernie. Cette notion est complètement battue en brèche. Pourquoi ? Parce que l'expérience a montré qu'on retirait une hernie qui risquait de s'en reproduire une autre, et que finalement, avec le temps, on arrivait à des situations de récidive de hernie. Et donc, il y a désormais des critères bien précis qui n'ont pas été édictés que par des chirurgiens orthopédistes, mais également par des médecins rhumatologues, des médecins de rééducation, et qui nous disent effectivement quand il est indiqué d'opérer une sciatique due à une hernie discale par la chirurgie. Alors en fait, ces critères sont précis, ce sont des cas sélectionnés, échec du traitement médical, échec de la kiné McKenzie, et les critères de ce qu'on appelle l'HAS, c'est la Haute Autorité de Santé qui donne des recommandations qu'on doit suivre, seront très simples. On opère une sciatique quand elle est paralysante, qu'elle résiste à la morphine pendant plus d'une semaine ou qu'elle récidive dans un délai de un mois. Alors après, c'est une chirurgie qui doit rester relativement simple. On retire la hernie sans retirer le reste du disque. L'hospitalisation est de 48 heures. Et une fois de plus, la reprise de l'activité physique et du sport est un facteur de prévention de la récidive, est un facteur qui également évite que cette lombosciatique aiguë subaiguë ne devienne chronique. Et donc, il faut encourager la reprise des activités physiques et sportives, même après une intervention chirurgicale qui n'est, une fois de plus, j'insiste pas, la solution univoque. Et tout ça nous ramène malheureusement au cas où, malgré tous les efforts, la lombalgie persiste, elle devient chronique. Et je vais redonner la parole à Anne qui va nous parler de ce qu'on peut proposer pour venir à bout de cette lombalgie chronique.
Alors ça fait beaucoup d'informations, donc j'ai remis le schéma du cercle vicieux de la lombalgie que vous avez donc devant vous. Vous vous rappelez une lésion au départ, hein, qui est la même que des événements simplement aigus qui ne vont pas durer. Ça va entraîner une douleur et puis en fonction, si le terrain est propice, malheureusement, ce cercle vicieux va tourner et chaque élément va aggraver le suivant. Donc, qu'est-ce qu'on propose à ce moment-là? Bien sûr, tout a déjà été essayé. La plupart du temps, les gens nous viennent. Ils ont parfois un an, deux ans d'arrêt de travail, ce qui est considérable. Ça peut être aussi des patients à la retraite qui abandonnent toutes leurs activités, avec tout ce que ça implique sur le plan du moral. Et donc, on va leur proposer ce qu'on appelle... Alors, il y a tout un tas de vocabulaire, programme de reconditionnement, c'est aussi école du dos, programme de prise en charge globale des lombalgies. Enfin, peu importe, tous les centres de rééducation qui s'occupent de lombalgie, tous les services de rééducation proposent ce type de programme, avec quelques variations, mais ils ont été mis à l'épreuve depuis des années et des années. La Sécurité sociale accepte ces 4 à 5 semaines, voire 6 semaines d'hospitalisation. C'est donc qu'il y a des résultats. Alors vous avez vu qu'il y a tout un tas de facteurs sur lesquels il va falloir agir. On ne peut plus se contenter d'agir sur la lésion. On n'en est plus au stade, quand le patient arrive et nous dit « je ne sais toujours pas ce que j'ai », on n'en est plus à ce stade-là. On sait pourquoi il est en état douloureux. On va essayer d'agir sur tous ces facteurs, mais on ne s'occupe plus de la lésion. Quelquefois, le patient est déçu et tout notre rôle, ça va être de lui dire qu'on va trouver des moyens pour soulager, pas guérir, évidemment, son dos, il l'a, il l'aura jusqu'à la fin de sa vie, mais on va lui trouver des moyens pour améliorer sa qualité de vie. L'objectif, c'est qu'il arrive à faire tout ce qu'il doit faire à son âge, moyennant eh bien, la gestion des médicaments, moyennant l'entretien physique, moyennant l'économie rachidienne. Hein, il y a quelques mouvements qu'il vaut mieux éviter, il faut qu'il les connaisse. On lui enseigne le McKenzie, quand il n'a pas été enseigné avant, on l'enseigne, on le revoit systématiquement quand les patients viennent pour ces programmes. C'est des programmes lourds, on ne peut pas se contenter de faire une séance par-ci, par-là, deux heures, et puis le patient revient huit jours après. Non, c'est un vrai investissement, hein. C'est au minimum du minimum 4 semaines. Alors pourquoi ce chiffre? C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'on commence à avoir un vrai progrès, en particulier sur le plan musculaire, pas avant ces 4 semaines d'entraînement. Donc le patient, on va lui demander beaucoup d'efforts hein, pendant ces saisons des traitements. Ce n'est pas une cure thermale où on a un peu de boue, de chaleur, etc. Là, le patient, il va être très actif. Hein. La piscine, dans ce genre de programme, c'est la récompense après une journée de travail. Ce n'est pas l'essentiel de la prise en charge. Donc on va enseigner toute cette activité. Le patient, à la fin, là, le plus important, c'est qu'il nous dit j'ai compris qu'il ne faut pas que j'attende la solution miracle. J'ai compris que c'était à moi de bouger. J'ai compris ce que je pouvais faire. Souvent, ils nous disent « jamais j'aurais pensé être capable de faire tout ce que j'ai fait ». Alors après, il y a des progrès sur le plan musculaire, mais l'important, c'est vraiment que le patient il reparte avec le moral. Donc il y a un entretien psychologique, il y a de l'ergothérapie pour les difficultés professionnelles. On va agir sur les difficultés quand on est à la retraite, quand on ne peut plus aller à la chasse. Les objectifs du patient sont les siens, on les respecte, on essaie que le patient obtienne ses objectifs. J'ai toujours pour habitude de dire que 20% du travail est fait dans le centre de rééducation, 80% du résultat à long terme, c'est le patient qui va l'obtenir en se prenant en charge. Donc on revoit les patients à 2 mois. Parfois la douleur, elle va céder vite, presque un peu miraculeusement, ce qui n'est pas toujours le bon cas, parce que du coup le patient il oublie un peu tout ce qu'il a à faire après, et du coup il récidive. Donc le bon cas, c'est celui où on a déjà une amorce de baisse de la douleur pendant ces 4 semaines, et ensuite, là, le vrai résultat, on l'a à 2 mois, quand le patient s'est bien pris en main et quand il nous remplit nos échelles de douleur et qu'on voit que les progrès sont réels. Donc c'est une prise en charge qui est lourde, qui évidemment est destinée à un certain nombre de cas, mais pas à tous les cas. Il y a des patients qui sont intermédiaires, on va dire, entre les patients avec des lombalgies un peu récidivantes, mais qui sont encore au travail, qui ont une vie à peu près normale. Dans ces cas-là, on va faire des programmes qui vont être allégés, qui vont être inspirés des programmes lourds, mais qui vont être allégés, qui ne nécessiteront pas une hospitalisation aussi prolongée. Et parfois, là encore, je termine juste là-dessus, les patients nous disent « Oui, mais j'habite à côté, vous m'hospitalisez 4 semaines. » Alors, ils rentrent quand même le week-end, on n'est pas si dur, mais c'est très important de couper. Hein, en particulier les mères de famille qui font le ménage qu'elles n'ont pas fait dans la journée, qui s'occupent des enfants, etc. Et les messieurs s'occupent en principe aussi du ménage et tout ça. Et donc, il faut se couper et ne penser qu'à soi pendant ces 4 semaines. C'est aussi important que tout le reste. C'est une vraie remise en cause. Et alors, si tout va bien, vous voyez que le cercle qui était rouge est devenu vert. On a enfin une régression de la douleur chronique grâce à un contrôle thymique, un contrôle du moral. Les patients repartent avec un moral bien amélioré. Il faut savoir que c'est en groupe, donc le fait d'être avec les autres est utile. Ils ont une bonne idée de l'entretien physique, il va falloir continuer jusqu'à la fin de leur vie, hein. Ils ne sont pas guéris à aucun moment. Et puis, quand il s'agit de difficultés sur le plan professionnel ou dans les activités, eh bien, on les apprend à mieux les gérer. Et donc, on obtient à ce moment-là un cercle vertueux. Voilà.
Bien, merci. Donc, il me reste à conclure sur ce chapitre de la lombalgie, parce qu'il est quand même certains cas dans lesquels l'échec des traitements conservateurs et l'identification d'une lésion bien précise sur un disque va amener à proposer une solution chirurgicale. Alors là encore, la littérature est importante. Vous avez tous entendu parler de l'IRM. Vous avez constaté qu'on ne vous a pas montré trop d'IRM. Parce que si on fait une IRM dans cette salle, on trouvera dans les 3/4 de la population un disque noir qui est donc dégénératif, et peut-être même chez certains des plus jeunes qui sont au fond. Eh bien, peut-être que ce disque noir va donner des symptômes, mais peut-être que non. Et en fait, si tous les disques noirs donnaient des symptômes, tout le monde quasiment en aurait. Donc, il n'y a pas une corrélation entre ce que va dire l'IRM. Ce qui compte, c'est vous, ce que vous ressentez dans la douleur. Et Anne a très bien montré ça avec son cercle vicieux qui devient vertueux. Tout intervient, le thymique, le psychologique et tout le reste. Je ne vais pas redire ce qu'elle a dit. Mais quand même, dans quelques cas, tout nous laisse à penser qu'un disque très usé alors que les autres ne le sont pas peut justifier une intervention chirurgicale. Donc les cas de la chirurgie dans cette lombalgie commune sont très rares, mais on ne pouvait pas parler du sujet sans l'évoquer. Donc la décision, là, n'est jamais prise que par le chirurgien ou que par le rhumatologue ou que par le médecin. Non, c'est une décision concertée, pluridisciplinaire, entre le rhumato, le médecin de rééducation et les autres professionnels de santé, le kiné qui a suivi le patient, etc. Le patient qui va subir une intervention chirurgicale sur une discopathie lombaire, source de lombalgie chronique, doit être motivé. Parce qu'il doit être motivé pour aller faire les 4 semaines de reconditionnement à l'effort, mais il doit être aussi motivé pour la chirurgie. Et enfin, et ça c'est important, il faut qu'il y ait une bonne concordance entre l'anomalie anatomique, parce que vous avez le squelette, vous allez avoir une anomalie, mais vous avez compris que la colonne c'est un tout. Est-ce que c'est vraiment cette lésion qu'on a trouvée qui est responsable des douleurs? C'est ce qu'on appelle la concordance entre l'IRM, le scanner, etc. Et donc, une fois cette sélection faite, eh bien, on peut proposer, et donc j'ai choisi de vous montrer quelques petits exemples, parce qu'on en entend parler, on va faire en fait une arthrodèse. Sauf qu'au lieu de la faire, comme dans la scoliose, sur 7 ou 10 vertèbres, on va la faire sur un ou deux disques. Alors, vous avez en bas, ici, à gauche, une IRM qui vous montre la dégénérescence des disques. Mais ce passant-là, tous ces disques sont dégénératifs, c'est pour ça que j'ai mis cette photo, et il n'est pas opéré, il n'en a pas besoin, il a un peu mal au dos de temps en temps, il fait ses exercices, il a eu de la McKenzie et maintenant il s'entretient, alors que si on regarde son IRM, tous ses disques sont noirs. Donc on ne l'opère pas puisqu'il va bien. Et à droite, vous avez des cas qui ont été sélectionnés. Alors dans certains cas, la chirurgie se fait par derrière, comme dans la scoliose, on a des vis dans les vertèbres et une cage entre les corps vertébraux. Et dans certains cas, comme vous le voyez en bas, elle peut se pratiquer par devant. Et là, en bas à droite, vous avez un exemple de patient qui a eu une arthrodèse du dernier disque et au-dessus, un système qu'on appelle prothèse de remplacement discal, mais qui n'est pas une prothèse complète de la vertèbre, hein, c'est juste une prothèse de remplacement discal. Mais j'insiste sur le fait que dans ces indications, la chirurgie a une place qui est très réservé et qui est surtout l'objet d'une concertation et d'une discussion. On organise au CHU, avec les médecins rhumatologues et de rééducation, des consultations pluridisciplinaires pour décider de ces interventions. Alors, vous ne l'avez pas dans le fascicule, donc on peut laisser cette diapo. Pour ceux qui s'intéressent à la scoliose, j'ai trouvé un site qui est très bien parce qu'il est validé par la Société française des médecins et chirurgiens qui s'occupent de la scoliose, c'est scoliose et partage. Et ensuite, donc, j'ai, bien sûr, c'est la source principale de la soirée, le service de colonne du CHU de Poitiers, donc, que je représente, mais je suis ici au nom d'une équipe qui comporte, comme vous le voyez là, 6 chirurgiens, le service de médecine physique de Madame Delobier, Laurence Mille, que je remercie, parce que pour un médecin généraliste qui travaille en plus à l'hôpital, c'est pas rien de se libérer pour participer. Et bien sûr, Romain Carbone, qui nous a fait de très jolies présentations. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup à vous quatre. Alors, je pense que c'était très complet. Hein. On a eu plein d'infos. Vous avez donc une heure pour me faire un résumé. Ça doit tout tenir sur une feuille. Si vous avez quelques questions, on va se donner une petite dizaine de minutes. On va pouvoir prendre quelques questions. Attention, pas de consultation médicale, évidemment, puisque nos intervenants n'ont pas vos dossiers médicaux. On est bien d'accord. Donc, si vous avez quelque chose, essayez de généraliser un petit peu. Est-ce qu'il y a des questions? J'arrive. C'est le moment sportif pour moi. Allez, on y va. Donnez-moi une seconde, on m'explique. Il y avait une question ici. Je vais tenir le micro.
Oui, pardon. Est-ce qu'il y a au CHU un service qui s'occupe, j'allais dire, des séquelles d'opérations anciennes, et par exemple, qui entraînent une déformation du pied de plus en plus importante et que les chaussures orthopédiques ne suffisent plus. Et maintenant, les douleurs, elles sont plus du côté du rachis, mais du côté des séquelles, parce que suite à l'opération, les releveurs ne marchaient plus. Est-ce qu'il y a des consultations de ce genre?
Alors, oui, bien sûr.
Bien tendre le micro.
Je réponds à la question d'autant plus facilement qu'ils sont cités. Le service de chirurgie de la colonne du CHU, comme vous le voyez, s'appelle Unité, parce qu'il réunit des orthopédistes, dont moi-même, et des neurochirurgiens, rachis, neurostimulation, handicap, c'est-à-dire qu'on prend des patients en charge, les nôtres et parfois certains qui viennent d'ailleurs, de la plus petite lésion jusqu'aux plus graves séquelles de handicap. Donc il y a effectivement un service qui est cité ici.
Question suivante. Oui, j'arrive.
Du kiné. Je voudrais avoir l'adresse du kiné.
Ah. Le fan club, on vous donnera l'adresse tout à l'heure. Vous pourrez faire des photos avec lui aussi si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais on fait payer les photos. Hein. On fait payer les photos.
Oui, moi j'aurais aimé savoir ce qu'il en était de l'évolution d'une scoliose à l'âge adulte. Alors,
c'est une excellente question. Tout dépend de ce qu'on parle. La scoliose elle-même, qui évoluait de 1 degré par mois pendant l'adolescence, ce chiffre va passer, pas toujours, mais au pire, à 1 degré par an. Donc l'angle dont on vous a parlé ne va pas beaucoup se modifier. Mais le squelette va vieillir, comme chez quelqu'un qui n'a pas de scoliose. Et c'est donc plus les conséquences ensuite du vieillissement du squelette qui vont rendre cette scoliose douloureuse. Et une fois de plus, ça veut dire que quand on a une scoliose à l'âge adulte, parce qu'elle est restée de l'adolescence, eh bien il faut utiliser le sport comme moyen de mieux vivre avec sa scoliose, pour retarder au maximum l'échéance où... après, on fera le même traitement que pour une adolescente. Mais donc, il faut tout faire quand on le sait, parce que certains ne le savent pas. Il faut tout faire pour tenir le plus longtemps possible et donc s'entretenir physiquement. Et on peut nous prescrire, comme le disait Laurence, hein, le sport comme traitement d'un problème de dos.
Question suivante.
Oui, bonjour. Vous avez parlé d'un recul de 30 ans tout à l'heure par rapport à l'âge prothèse. Quelles conséquences sur les patients que vous avez opérés maintenant ? Celles que vous ne voyiez pas il y a 30 ans.
Si, si. Alors, j'ai parlé d'un recul de... En fait, j'ai un peu exagéré. Il est de 28 ans pour la patiente que j'ai montrée. Non, non, c'est important. Mais à l'époque... les premières techniques étaient beaucoup plus rudimentaires. On faisait des arthrodèses, mais avec ce qu'on appelait des tiges de Harrington qui corrigeaient que dans une direction de l'espace. D'accord ? Donc, ces patients-là, je les vois maintenant, alors qu'ils ont été opérés avant ma génération. Quand je vous parlais du recul de 30 ans, c'est des études qui sont attachées à la fonction uniquement. On ne s'est pas occupé, on ne leur a même pas demandé de radio de la colonne. On leur a envoyé un questionnaire de qualité de vie. Et on leur a demandé ce qu'ils faisaient et tout. Et nous, on sait donc maintenant qu'à 30 ans, une arthrodèse est bien tolérée. Et le seul critère qui a été identifié comme négatif, c'est quand on est obligé de faire l'arthrodèse en dessous de la troisième lombaire. Chaque fois qu'on peut la faire jusqu'à L1 ou L2, voire L3, il n'y a pas d'impact sur la vie future. D'autant que Nakemson, qui est un Suédois, avait montré dès les années 60 que si on n'opérait pas la scoliose, là, par contre, la qualité de vie à long terme était perturbée. Donc, en gros, une arthrodèse jusqu'en L3 vous permet de vivre quasi normalement au moins 25-30 ans. Ah, ça, c'est autre chose. Le rachis cervical est à part, effectivement. Ça pourrait être tout un autre sujet. Mais effectivement, quand on a une parce que le rachis cervical, l'arthrodèse de scoliose, elle est faite en dorsale, où au départ, il y a peu de mobilité. Donc, si on préserve le 3-4 disques lombaires, il n'y aura pas de souci. L'arthrodèse cervicale, elle est faite dans une zone très mobile. Et donc là, on réfléchit beaucoup. Avant de proposer une arthrodèse cervicale, les critères sont aussi stricts que pour les lombaires.
Merci de votre réponse. Question ? Oui. J'arrive.
Bonsoir. Donc j'avais écrit moi ma question parce que je souhaitais pas la poser oralement. Finalement, je vais le faire. Donc je vais vous lire ce que j'avais écrit. Donc il a été précisé que les sujets souffrant de problèmes dorsaux post-traumatiques n'étaient pas forcément dans les thèmes abordés ce soir. Donc cependant, je suis ici car le sujet m'intéresse beaucoup, mais aussi et surtout parce que directement concernée, je souhaite exprimer ma reconnaissance aux intervenants présents. Donc moi, suite à un polytraumatisme, un syndrome de la queue de cheval, il y a 23 ans, Monsieur Price et son équipe m'ont prise en charge. Les douleurs lombaires et autres sont quotidiennes, mais ceci est un moindre mal. Merci pour les réponses apportées ce soir et le partage de certaines de vos connaissances. Ce qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est le vieillissement d'un squelette et d'un rachis lésé, fracturé il y a de nombreuses années. J'ai 37 ans, mais des os très abîmés. Comment, selon vous, se préserver, s'économiser et gérer au mieux le vieillissement ? Donc je tiens à préciser quand même que je suis très active, dynamique et que je m'entretiens comme je peux. Donc je fais un petit peu de sport à mon niveau.
Alors bah, écoutez, je vous remercie de... Il y a 27 ans, 23 ans ?
En 97.
En 97, d'accord. Eh bien, je crois que beaucoup de choses ont été dites ce soir. Hein. Restez la plus active possible, entretenez-vous. Votre squelette peut vieillir comme le mien ou comme celui de beaucoup de gens qui sont ici. Les lésions traumatiques, la différence avec tout ce qu'on a abordé, c'est qu'une fois qu'elles sont consolidées, l'os, c'est un tissu qui se remodèle. L'os, ce n'est pas un matériau inerte. Il se renouvelle en permanence. Donc, quand une fracture est consolidée, elle est consolidée. Si elle est consolidée en assez bonne position, ce qui, j'espère, est le cas, il n'y a pas de raison que votre colonne vieillisse moins bien qu'une autre. Par contre, effectivement, le fait d'avoir eu les lésions neurologiques initiales, ça, c'est un autre problème neurologique. Mais on aura toujours une solution à vous proposer. La chirurgie n'est qu'un moyen qu'on utilise. Ce n'est pas parce qu'on est un service de chirurgie de la colonne qu'on ne fait que de la chirurgie. On traite beaucoup de gens chez le kiné. Comme le disait notre kiné, hein, il reçoit des patients de Jean-Luc Blanc, il reçoit des patients que nous, on préfère ne pas opérer. Donc, on trouvera toujours une solution pour vous. Et pour tout le monde, d'ailleurs. On est là pour ça.
Les deux dernières questions.
Oui, bonsoir. Quoi faire en cas de scoliose et syphose et de l'arthrose également?
Alors, vous nous expliquez un petit peu tout ce que c'est?
Alors, scoliose, je vous réponds, tiens, j'en profite. Ça vient du grec, beaucoup de termes viennent du grec, c'est sinueux. La scoliose, c'est parce que la colonne est sinueuse et la syphose, elle est ronde. Donc là, ben, après, ça dépend un peu des objectifs, mais l'arthrose, elle est inéluctable. L'arthrose, ce n'est pas une maladie, c'est le vieillissement des articulations. Vous avez vu sur le squelette que toutes les vertèbres s'articulent et donc elles vieillissent. Et il y a de l'arthrose comme il y en a au niveau des hanches, des genoux et de ce que vous voulez. Donc après, ben, il faut toujours pareil, s'entretenir, rester physiquement actif. Et après, malheureusement, avec l'âge, vous avez montré le petit bonhomme qui est debout, puis enfin à quatre pattes, puis debout, puis qui prend la canne. Dans certains cas, chez les personnes d'âge mûr, on reprend les traitements qu'on fait chez les adolescents avec des corsets, mais qui seront à portée, pas 24-24, qui seront à portée à la demande pour rester actif. Et je dis toujours, mieux vaut rester actif avec un corset que passif dans son canapé sans corset. Mais on a des solutions à tous âges.
Bonsoir. Vous n'avez pas parlé des semelles orthopédiques dans le traitement des scolioses. Donc je voulais savoir si c'était utile ou pas.
Alors bon, je vais encore essayer de répondre. Il arrive que... si. C'est difficile de répondre parce qu'il n'y a pas de le lien scientifique. Mes collègues, tout le monde a parlé des études de McKenzie, hein, qui en a fait énormément. Ce n'est pas un gadget, McKenzie, ce n'est pas une mode. Hein, c'est une vraie méthode évaluée scientifiquement. Laurence a parlé des études qui montrent que le sport, on sait maintenant que le sport entretient la santé et permet même de mieux vivre certaines maladies. Pour semelles et scoliose, je préfère ne pas vous donner de réponse parce que je n'ai pas de référence qui établisse un lien d'efficacité. Mais si l'enfant a aussi un problème de pied, là, il faut une semelle. Donc, il faut qu'il aille faire une empreinte podoscopique.
Je pense qu'il ne faut pas faire de corrélation, voilà, entre la scoliose et les problèmes podologiques. Et, les problèmes podologiques seront une épine irritative supplémentaire. Sûrement. Voilà.
Et dernière question, est-ce qu'il y a plus de scoliose maintenant qu'il y a une quarantaine d'années ou pas du tout?
Non, mais pas du tout. On les dépiste mieux, on les identifie mieux. Voilà. C'est comme beaucoup de maladies. Hein. Il n'y a pas plus de diabète qu'il y en avait, mais on les dépiste mieux et plus tôt surtout. Et c'est aussi le but des réunions comme ça, d'insister sur le dépistage. Il n'y a pas de prévention de la scoliose. C'est une maladie génétique, il y en aura toujours 3-4% de la population. Mais c'est le dépistage précoce qui permet un traitement adapté.
Il est surtout plus fréquent de voir des attitudes scoliotiques. Voilà. On n'en a pas parlé. Ah. Oui. Les attitudes scoliotiques liées, je dirais, à la sédentarité, d'abord. Donc les mauvaises postures, le cartable trop lourd des enfants, porté toujours du même côté. Mais là, on va pouvoir parler d'attitudes scoliotiques. D'où l'importance de retrouver ou de garder une activité physique et sportive régulière. Donc, cette activité sportive, puisqu'on parlait un petit peu de la prévention, est le garant d'un bon vieillissement, va limiter les déformations et les mauvaises postures. Donc, qu'est-ce que l'on entend parler par activité sportive et régulière, physique et régulière ? C'est vrai que c'est un vaste mot, on ne parle que de ces mots-là, l'abréviation APA ou APS. Ça correspond à quoi ? Il faut aussi bien faire de l'endurance que du renforcement musculaire. Et à tout âge, parce que qu'est-ce qui nous guette avec le temps ? C'est la fonte musculaire. Donc vous restez sédentaire 2 mois, vous avez tout perdu, les acquis de ce que vous avez fait les années précédentes. Donc l'endurance, c'est quoi ? Alors évidemment, c'est un mot un peu dans le monde du sport, donc je vais essayer de l'expliquer avec des mots simples, et c'est à la portée de tout le monde. C'est pouvoir 2 à 3 fois par semaine ou marcher, ou faire du vélo, ou nager, à petite intensité, mais sans s'arrêter pendant au moins 40 minutes. Donc il faut introduire ça dans votre emploi du temps. Il n'y a personne qui va vous le permettre, il faut vous faire violence pour introduire ça dans votre emploi du temps. Aussi bien les gens qui travaillent que les retraités. Je dis aussi bien les deux parce que les retraités n'ont pas le temps non plus, je vois, ils me disent. Et le renforcement musculaire, ça ne veut pas dire d'aller dans une salle de musculation. Vous pouvez très bien faire du renforcement musculaire chez vous. D'abord, pour ceux qui arrivent à utiliser un peu Internet, vous regardez comment faire des abdos, comment renforcer les muscles du dos. Et vous allez pouvoir voir des images toutes simples. Il vous suffit d'avoir des petites haltères, du petit matériel, un tapis, une petite corde à sauter, une chaise, les moyens du bord. Vous faites ça quoi ? 15 minutes, 2 fois par semaine, je pense que c'est à la portée de tout le monde. C'est que nous n'avons pas encore la philosophie, on n'a pas, comment dire, en France, on n'a pas cette philosophie de l'activité physique et sportive. Alors, à chaque fois qu'on utilise le mot sport, ça fait fuir tout le monde en disant « j'ai pas le temps, c'est trop difficile ». Mais faire du sport, ça ne veut pas dire transpirer, s'épuiser. Vous voyez ? Donc ce que je viens de vous expliquer, ce n'est pas du tout ça. Et si vous introduisez dans votre quotidien, dans vos semaines, ces 2-3 séances d'endurance avec 2 fois 15 minutes du renforcement musculaire, je vous assure que c'est le garant du maintien de votre santé, la diminution de toutes les maladies cardiovasculaires, la diminution d'apparition des cancers, un bon vieillissement. Voilà. Et toutes les études le prouvent là maintenant.
Merci beaucoup. Un mot de conclusion, alors très rapidement, s'il vous plaît.
C'est une conclusion. Je constate que la plupart d'entre vous, par contre, sont bien assis. Et je vous invite à en faire de même avec vos enfants et petits-enfants qui s'assoient souvent tassés sur l'ordinateur.
C'est vrai. Merci en tout cas à vous quatre. On peut vous applaudir parce que vous avez été vraiment très très brillant et précis. Si vous avez quelques questions, je vous les laisse un petit peu juste après. Vous pourrez aller leur poser une petite question, il n'y a pas de souci. Je voudrais remercier, puisque c'est la dernière de l'année, toute l'équipe d'organisation, le CHU, avec Anne-Sybille, Aurore et Vanessa, Stéphane Marais également, l'équipe de Mendes France, Christine évidemment, l'équipe technique, les intervenants du CHU depuis le début. Vous allez pouvoir réécouter tout cela sur le site donc du CHU et de Mendes France. N'oubliez pas de remplir également la fiche d'évaluation et puis on se retrouve le 8 février pour le prochain pôle Info Santé. Si je vous dis aromathérapie, sophrologie et autres, j'ai pas complètement fini, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. Si je vous dis aromathérapie, sophrologie, vous me dites médecine alternative, ce sera le sujet de notre prochain pôle Info Santé le 8 février. Il y en a qui voulaient noter. Merci beaucoup, bonne soirée.